Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre rendez-vous média pub et com sur BFM Business. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique de nos meilleurs acteurs du monde de l'info, de la diffusion, nos meilleurs communicants des plateformes des réseaux sociaux. Hebdocom saison 2 épisode 27, c'est parti.
BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch.
Au menu aujourd'hui, 6 mois après le début de la guerre au Proche-Orient, qu'en est-il pour la chaîne d'information internationale I24 News, 10 ans après sa création? Franck Melloul, son PDG, est à Paris en studio avec nous et il sera sur le plateau d'Hebdocom dans quelques minutes. Comme d'habitude, Simon Tenenbaum passera en revue pour nous toutes les news d'Hebdocom. Et pour terminer, que vaut cette commission d'enquête pour l'attribution des renouvellements des fréquences des chaînes TNT? Comment gérer la dérive de la communication de son président, Quentin Bataillon? Et le sujet au centre de cette commission, le pluralisme, qu'en est-il pour les annonceurs? C'est notre focus du jour. Mais d'abord, j'accueille mon invité, Franck Melloul. Bonjour Franck Melloul.
Bonjour Rebecca.
Merci d'être là en studio à Paris cette fois, sur le plateau d'Hebdocom. Vous êtes le PDG d'I24 News, je le rappelle, qui appartient au groupe Altice Media. Plus pour très longtemps, enfin, BFM Business n'appartiendra bientôt plus... Altice Media, mais on en reparlera après. Vous continuerez à appartenir...
Oui, nous n'appartenons pas à Altice Media et 24 News. Nous appartenons à la branche américaine d'Altice.
D'Altice.
Ce qui fait qu'effectivement, I24 News n'est pas impacté par la vente.
Par le rachat par Rodolphe Saadé.
Absolument.
Mais vous appartenez au groupe Altice.
Absolument.
On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Évidemment, de ce qui se passe depuis bientôt 6 mois, depuis les premières attaques du Hamas. 6 mois d'édition spéciale permanente. Quelques changements récents. Une nouvelle chaîne en hébreu. Vous allez nous en dire un mot. Mais d'abord, I24 News qui fête ses 10 ans cette année dans ce contexte de guerre ultra complexe. Vous nous disiez, quand on s'était eu en duplex, vous étiez à la rédaction à Tel Aviv, au lendemain des premières attaques du 7 octobre, que le quotidien de la chaîne, c'était de vivre au rythme des sirènes d'alerte à la roquette. Comment est le quotidien de la chaîne aujourd'hui? Comment vont vos journalistes? Comment va la rédaction?
Le quotidien n'a pas tellement changé, puisque ce week-end, nous atteindrons 6 mois d'édition spéciale depuis le 7 octobre. Nos journalistes sont mobilisés à couvrir ce conflit et effectivement, on ressent la fatigue au bout de 6 mois, mais l'intensité aussi se réduit parce qu'il y a moins de tirs de roquettes sur Israël. Mais au moment où je vous parle, on sent une nouvelle intensité au conflit arriver, qui est les tensions avec le Nord et avec l'Iran. Donc, je pense que la chaîne va rester encore mobilisée longtemps, avec une certaine vigilance sur à rapporter l'actualité telle qu'elle se déroule en Israël et dans sa région.
Et vous, en tant que patron, en tant que manager, cette fois avec un petit peu de recul, 6 mois plus tard, versus quand on s'est parlé au mois d'octobre, qu'est-ce qui vous a semblé le plus dur en termes de management? Est-ce la partie éditoriale et la dimension politique à gérer? Est-ce plutôt la partie financière avec peut-être un besoin plus élevé en production?
Non, je dirais que la partie la plus difficile a été la partie gestion humaine, notamment dans les premiers jours. Aujourd'hui... Le temps a fait que les choses se sont beaucoup plus automatisées, mais on a atteint un tel niveau d'atrocité ce 7 octobre. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous avons eu nous-mêmes un employé qui a été touché par les attaques en se rendant au travail le 7 octobre par des tirs du Hamas, où il est encore en rééducation. Il n'y a pas un journaliste qui ne connaît pas quelqu'un qui a été soit victime le 7 octobre ou à la fête à Nova ou kidnappé parmi les otages qui se trouvent encore à Gaza. Donc cette gestion-là a été compliquée parce que il fallait avant tout être journaliste et mettre de côté ses émotions personnelles.
Si on parle de ce sujet des fake news qui sont démultipliées encore plus en ces temps de guerre, comment est-ce que ne pas être seulement le relais du gouvernement de Netanyahou, comment est-ce qu'on fait attention à ne pas entrer dans une forme de propagande?
D'abord, difficile pour nous d'être un média de propagande dans la mesure où nous sommes privés et indépendants. Nous ne touchons aucune subvention gouvernementale et nous sommes encore moins publics. ce qui fait d'ailleurs de nous une des rares chaînes d'information internationale à ne pas appartenir à un gouvernement. Deuxièmement, vous l'avez dit, il y a énormément de fake news. Nous-mêmes, nous avons fait l'objet de beaucoup de critiques sur une information que nous avons relayée. Je tiens à préciser que nous l'avons simplement relayée, qui est la décapitation de 40 bébés. Mais ce qui est terrible dans ce conflit, c'est comme je le disais tout à l'heure, on a atteint un tel niveau d'atrocité que tout est plausible. Maintenant, on sait qu'il y a des enfants qui ont été massacrés, des enfants qui ont été exécutés devant leurs parents ou des parents qui ont été exécutés devant leurs enfants. Donc je crois que ce débat-là est déplacé dans la mesure où il n'y a pas de hiérarchie dans l'horreur.
L'information, c'est ça que voilà. Vous voulez dire. Le choix éditorial à faire.
Absolument. Donc nous rapportons ce qui est dit, c'est ce qui a été fait, et quand ce qui est dit est faux, eh bien nous le corrigeons. Encore une fois, nous émettons dans un pays en guerre, l'information va très vite, dans tous les sens, et aujourd'hui, avec la multiplication des réseaux sociaux, les fausses informations se dispatchent encore plus vite.
D'autant plus quand vous êtes en édition spéciale permanente, comme vous l'êtes.
Depuis le 7 octobre.
Justement, depuis ce moment-là, la chaîne a enchaîné les pics d'audience, x5 en France, x10 aux États-Unis. Est-ce que cette guerre a fait gagner de l'argent à I24?
Je ne peux pas gagner de l'argent parce que il y a la publicité d'un côté. Et vous savez que les chaînes d'information internationales sont des plateformes privilégiées pour tout ce qui est tourisme, voyage. Et en l'occurrence, quand vous êtes en guerre, c'est compliqué. Par contre, I24 News a gagné en notoriété, en audience, vous l'avez dit. Et tout ça, c'est quelque chose que l'on va capitaliser pour la suite parce que beaucoup, beaucoup de gens dans le monde ont pu découvrir la qualité, l'indépendance et l'équilibre de cette chaîne, qui sont généralement des valeurs que beaucoup d'annonceurs recherchent.
Donc c'est un gain pour l'image de la chaîne. Est-ce que I24 News est rentable ?
Pas à ce stade.
Pas à ce stade. Juste pour clarifier, vous me disiez tout à l'heure que vous lancez une quatrième chaîne en hébreu. Vous me parliez aussi d'un article de nos confrères de Challenge qui disait que les bureaux de Paris fermaient. C'est pas le cas.
Pas du tout. Donc, on n'est pas du tout dans une logique de réduction, on est dans une logique de développement. Ce qui a été frappant depuis le début de cette guerre, c'est la perception d'I24 News auprès de nos téléspectateurs.
C'est-à-dire
qu'aujourd'hui, la demande est beaucoup plus précise. Il y a une volonté de nos téléspectateurs d'avoir plus d'informations et plus de directs sur ce qui se passe en Israël et dans la région. Et donc, pour répondre à cela, nous allons lancer une quatrième chaîne qui cette fois est en langue hébreu et qui a un double mérite parce qu'elle sera tout d'abord la première chaîne toute info en Israël du type de BFM qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché israélien. Il y a quatre chaînes qui sont des chaînes qui partagent à la fois l'information et l'entertainment comme TF1, France Télévisions ou M6. Et le deuxième mérite, c'est que ces chaînes israéliennes ont tout un agenda politique. Elles sont soit pro-gouvernementales, soit anti-gouvernementales. Eh bien, nous allons arriver avec une chaîne toute info qui aura pour agenda de ne pas avoir d'agenda et de privilégier l'information.
Comment s'organisera la distribution de cette nouvelle chaîne?
Eh bien, vous aurez l'occasion de voir une partie de la journée, essentiellement la matinée, puisque c'est le temps des chaînes nationales le matin. Cette chaîne en hébreu, en faisant appel à l'intelligence artificielle, on sera une des premières chaînes d'info à utiliser l'intelligence artificielle. Suivant où vous vous trouvez dans le monde, eh bien, vous aurez l'occasion de voir des sous-titres de cette chaîne en français, en anglais ou en arabe. Et puis l'après-midi, vous retrouverez les programmes traditionnels d'I24 News en français, en anglais, en arabe et bien sûr en hébreu maintenant avec une chaîne qui diffusera de 6h du matin à minuit, 24h sur 24 en direct. Et vous aurez un prime time sur les trois langues qui ont fait le succès d'I24 News à l'international.
Donc là, vous êtes en période de recrutement?
Nous sommes en période de test et de transition.
Si on revient sur les 10 ans quand même d'I24 News, que vous avez cofondé avec Patrick Drahi, quel bilan vous pouvez faire de ces 10 dernières années? Qu'est-ce que vous souhaitez pour les 10 prochaines années?
Comme vous l'avez dit, on a célébré 10 ans. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de les fêter au regard de ce qui s'est passé. Mais ce qu'on peut dire comme premier bilan, c'est que Patrick Drahi avait raison, qu'il y avait un besoin d'avoir une voix qui émane d'une démocratie du Proche-Orient et qui puisse apporter cette diversité. Et un des plus grands succès, je crois, aujourd'hui de cette chaîne, c'est justement le regard que portent les pays arabes sur i24 News, puisqu'on nous a beaucoup présenté comme une alternative à Al Jazeera. Eh bien, elle est devenue même une alternative d'Al Jazeera pour les pays arabes eux-mêmes. Et on le voit même aujourd'hui, pendant ce conflit, que les pays arabes nous regardent beaucoup, avec beaucoup d'intérêt, et nous sommes repris par beaucoup de médias arabes, y compris iraniens.
Merci beaucoup Franck Melloul.
Merci Rebecca.
Merci d'avoir été avec nous. Bon retour en Israël. Tout de suite, les news de Simon Tenenbaum.
Tout le monde veut vendre de la pub. Voilà ce que nous enseigne l'actualité de la semaine, avec par exemple aux États-Unis un nouvel acteur, un nouveau secteur même qui débarque sur le marché du retail média. C'est la banque Chase qui est la première à lancer une activité publicitaire. Elle va partager ses données avec des annonceurs pour afficher des pubs ciblées, des promotions sur son application et son site internet. La banque met pour l'occasion en place une nouvelle unité, Chase Media Solutions, pour séduire les annonceurs. Elle compte évidemment sur la pertinence des données tirées des comptes bancaires. Les utilisateurs auront évidemment la possibilité de refuser de partager leurs données. Après le e-commerce, la grande distribution, les enseignes spécialisées, les VTC et même les compagnies aériennes, voilà de quoi encore faire grossir le marché du retail média qui est parti pour peser plus de 20% des dépenses publicitaires cette année dans le monde. De la pub qui arrive aussi sur un nouveau réseau social, c'est Discord, jusque-là très réticent à afficher des publicités, qui a visiblement décidé de faire comme ses concurrents. Les publicités seront celles d'éditeurs de jeux vidéo, puisque c'est l'ADN de ce réseau social. Le fondateur prend le risque d'un virage qui pourrait déplaire aux 200 millions d'utilisateurs de la plateforme, mais Discord doit augmenter ses revenus, tirés pour l'heure seulement d'options payantes, 600 millions de dollars de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois. En janvier, 17% des effectifs de l'entreprise avaient été licenciés. Grand ménage chez Google. Enfin, le groupe a accepté de détruire des milliards de données de navigation collectées lorsque ses utilisateurs avaient pourtant activé leur mode incognito sur son navigateur Chrome, ce qui a déclenché une class action en Californie, un traçage illégal selon les plaintifs, même si ces données avaient été anonymisées. Google a donc accepté de supprimer les données de 136 millions d'utilisateurs pour mettre fin aux poursuites.
15 chaînes de la TNT ont jusqu'au mois de mai pour déposer leur candidature au renouvellement de leur fréquence. En décembre dernier, le député LFI Aurélien Saint-Toul a usé du droit de tirage de son groupe pour mettre en place une commission d'enquête consacrée aux obligations de convention à respecter. Désigné rapporteur, il doit remettre ses conclusions le 7 mai prochain et le député Renaissance Quentin Bataillon a lui présidé cette commission. Et je précise quand même que je l'avais donc invité pour nous en parler cette semaine dans l'émission aujourd'hui. Il a décidé d'annuler sa venue au dernier moment à la suite de son passage dans l'émission de Cyril Hanouna. Donc voilà, on va évidemment parler de ce qui s'est passé pour le président de la commission d'enquête cette semaine et plus largement de son utilité et du rapport des marques au pluralisme, le sujet crucial de cette commission. Et pour en parler, Victor Bory, bonjour.
Bonjour Rebecca.
Merci d'être là. Je rappelle que tu es présidente de Backbone Consulting et à côté de toi, Marie-Virginie Klein, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là également. Tu es présidente d'Iconique. Donc un mot d'abord sur cette communication de Quentin Bataillon. Je précise au cas où il a donc été dans l'émission TPMP dire que le présentateur concurrent de Cyril Hanouna, Yann Barthès, avait été arrogant dans sa commission lors de ses auditions. J'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Qu'est-ce qui lui a appris à Quentin Bataillon cette semaine pour faire ça, Marie-Virginie ?
Alors là, je pense que c'est vraiment un coup de com' non maîtrisé. Et d'ailleurs, quand on regarde la séquence, on voit bien qu'il parle, mais qu'il n'avait pas eu l'intention de dire ça en plateau. D'une certaine façon, il s'est un peu fait piéger par Cyril Hanouna. Et ça arrive souvent, le jeu dans cette émission, c'est quand même de faire parler les invités, de leur faire dire des choses qu'ils ne diraient pas forcément spontanément. Et donc, il y a été un peu sans préparation. Et c'est dommage parce que finalement, les auditions avaient été très intéressantes, avaient très bien commencé et il était en train de faire un vrai travail de vérification des obligations que les chaînes de la TNT ont à remplir. Donc c'est dommage parce que du coup, le débat se déporte de cette exigence de pluralité à ce bad buzz dont il est victime aujourd'hui.
Et comment on peut imaginer que il n'ait pas anticipé cela alors que c'est le fond même de ses travaux en ce moment.
Ses travaux, et puis c'est là pour on est en plein dans le sujet de l'émission, c'est-à-dire que c'est les fondamentaux d'une intervention médiatique, quoi. C'est-à-dire que ça se prépare et ça se prépare. On n'arrive pas à la fleur au fusil dans les émissions, encore moins dans une émission comme celle de Cyril Hanouna. Ça se prépare non pas, et c'est ce qui est beaucoup reproché aux politiques, mais pour recracher des éléments de langage, mais pour au contraire préparer toutes les conditions d'un discours de sincérité et de pédagogie, ce qu'il voulait faire. Donc il aurait dû, et puis c'est évident, tu parles de piège, mais honnêtement, et Sandrine Rousseau aussi parlait, il s'était fait soi-disant piégé par le groupe Bolloré. Mais une émission comme celle de Cyril Hanouna, on sait très bien à quelle sauce on va être mangé. Le coup du t-shirt, il aurait dû s'y attendre. Et d'ailleurs, ça aurait été une très bonne occasion pour répondre à ça sur « on n'est pas là pour rigoler, le pluralisme dans les médias est un sujet crucial pour les Français, cessons de rire ». Et effectivement, il semble s'être fait piéger, ça semble quand même être de l'impréparation.
Ouais. Et je trouve que le problème n'est pas d'avoir été dans l'émission de Cyril Hanouna, parce que ça...
Il n'a pas un droit de réserve jusqu'au rendu des conclusions.
S'il va dans toutes les émissions, ça va, mais je pense que l'erreur, vraiment l'erreur, ça a été de dire du mal sur le plateau de Cyril Hanouna, du principal adversaire de Cyril Hanouna, du concurrent, pas adversaire.
Ce qui est une erreur d'impréparation, voilà. C'est de l'improvisation.
Et c'est là qu'est le problème, parce que finalement, en termes de pluralité, s'il va sur tous les plateaux, s'il va dans différents plateaux, je pense que c'est son droit. Mais il ne faut pas qu'il... Moi, en fait, je ressens quelque chose, c'est que Aurélien Saint-Toul, donc, qui est député LFI à l'origine de cette commission d'enquête, en fait, il est ouvertement anti-Bolloré. C'est quand même, vraiment, il le dit très ouvertement, même dans les questions qu'il pose dans les commissions, c'était très direct. Et je le vois aussi un peu comme une volonté de rééquilibrer et de montrer que finalement, la commission reste neutre, même si elle a été demandée à l'origine par un député LFI. Donc, c'est un dérapage, mais je pense qu'il partait de cette intention-là.
Ouais, intention, mais ça arrive quand même à un moment où le rapport n'est pas encore rendu. Et c'est effectivement, soit il décide d'aller dans tous les médias, mais cette intention de rééquilibrer, elle est un peu bancale. Et je pense, moi, également, c'est que pourquoi Hanouna, on en avait parlé ici sur ce plateau, c'est qu'il a été attiré dans un contexte où les politiques, en fait, sont attirés coûte que coûte par de la visibilité, de la notoriété pour exister politiquement, alors que ça devrait être l'inverse.
Puis on a très vite senti qu'il a pris goût.
Oui. Et puis Hanouna, on sait que c'est un faiseur et défaiseur de rois médiatiques. On l'a vu justement avec des Louis Boyard qui sont passés de l'autre côté, des Ségolène Royal qui sont venus dans son émission. Enfin voilà, et il a été, je pense, piégé par l'appât du gain de la visibilité de l'émission de Cyril Hanouna.
Il a essayé de se rattraper.
Oui, et ben justement, absolument. Il a déclaré sur France Info ce mercredi matin qu'il reconnaît sa maladresse d'aller dans l'émission concurrente, mais qu'il ne change pas sa position sur le fond de sa pensée. Je parle sur l'arrogance de monsieur Yann Barthès. Est-ce qu'il a bien fait de se défendre comme ça?
Alors, il a bien fait de se défendre parce qu'il fallait vraiment parler. Le silence, c'est contre-productif dans ce genre de situation. Donc, il a bien fait de parler. Après, mon sentiment, c'est que il a peut-être pas suffisamment trouvé les bons arguments en mesure de réparer le mal qui a été fait. Une fois qu'en image, le mal a été fait, c'est très difficile à réparer.
Ouais, c'est ça. Il a fait beaucoup de mal à la commission. Jacques, depuis le début, il était plutôt, comme tu le disais, depuis l'initiative de LFI de la lancer, ça a fait beaucoup parler, et beaucoup parler en dehors du vrai sujet de la commission. Les auditions ont été pas mal reprises, elles font l'objet de mèmes sur les réseaux. L'intervention d'Hanouna, évidemment, avec son heure du goûter. L'intervention aussi de Vincent Bolloré sur sa désinvolture. Enfin, ça a fait beaucoup parler, mais pas sur le fond du problème. Donc, le fait qu'il arrive à ce moment-là seulement sur ce plateau, ça dessert totalement la commission, effectivement, alors que on a un moment où on a besoin de pédagogie sur les institutions. Il y a beaucoup de travail qui est fait, notamment chez vos confrères de la chaîne parlementaire Public Sénat, pour justement sur des formats qui s'adressent aux jeunes sur les réseaux, des documentaires assez bien faits. Et il y a aussi la Colopo, j'ai oublié son nom, l'auteur de BD qui avait sorti une BD sur l'utilité du Palais Bourbon, qui avait extrêmement bien marché, qui en sort une aujourd'hui là sur le rôle du Parlement. Et en fait, toutes ces initiatives, elles sont sapées par des interventions, des coups de com' comme ça.
Maintenant que tout cela est fait, son intervention dans TPMP, sa défense sur France Info cette semaine, comment est-ce qu'il pourrait rebondir aujourd'hui, Quentin Bataillon ?
Maintenant, je crois que le rapport est remis le 7 mai. Donc, je pense qu'il faut se concentrer sur le travail, poursuivre les auditions et essayer de retourner sur le fond du sujet, qui est les chaînes de TNT respectent-elles la pluralité en politique et quelle influence ça aura sur le paysage médiatique de demain, parce que on vit quand même dans une période où le paysage médiatique est transformé en profondeur. Les acteurs sont en concurrence aussi un peu les uns avec les autres de plus en plus, et peut-être que ça transformera aussi un peu plus profondément le paysage médiatique. Donc je pense que maintenant je sais qu'il y a beaucoup d'appels à la démission, notamment des députés de la France.
Il a dit qu'il ne souhaitait pas démissionner pour autant.
Oui, c'est le jeu. Maintenant, il faut qu'il se remette au travail. Et je pense qu'il devrait dire je m'excuse, je me remets au travail.
D'autant que les projecteurs vont être totalement sur lui, sur la diffusion des auditions. Donc, effectivement, comme tu le dis, c'est de se concentrer sur le boulot, sur le fond. Et le fait que les projecteurs soient sur la diffusion des auditions, c'est de profiter de ce plateau-là, si on peut appeler ça un plateau, pour faire de la pédagogie, ce qu'il n'a pas réussi à faire jusqu'à maintenant.
Et alors, dans la foulée, en face, dans Quotidien, Jean-Michel Apathy en a fait son édito, mercredi soir, a rappelé que quand un bataillon avait un devoir de réserve, Yann Barthès a lui dit que ça avait, je le cite, foutu en l'air une commission qui aurait pu apporter quelque chose et a qualifié cela de très grave. Est-ce vraiment très grave? Et est-ce que, pour le coup, cette fois, Yann Barthès a bien fait de communiquer de cette façon-là?
Je pense qu'il fait aussi monter un petit peu
la sauce.
L'événement, voilà, la sauce. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est à l'ère où une info chasse l'autre. Donc oui, ça n'a pas été très bien en termes d'image et l'impact est mauvais. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter toute la réflexion sur ce thème qui mobilise énormément de cerveaux de la part des médias. Donc non, il fait monter le truc en sauce, mais moi je pense que c'est pas habile, c'est même très mal habile, mais c'est pas grave.
Il aurait dû ignorer.
Oui, c'est mal habile, mais il en profite, il fait monter la sauce, effectivement. Mais ça rappelle, pour le coup, lui, on fait la pédagogie, ça rappelle les principes d'une commission, à savoir l'indépendance, l'impartialité et la réserve. Donc au moins, il y a trois messages qui sont passés grâce à son intervention.
Alors, initialement, nous, on voulait s'intéresser aux marques, aux annonceurs. On avait posé cette question sur nos réseaux sociaux, sur la commission d'enquête plus globalement. Les marques qui annoncent sur une chaîne sont-elles en accord avec sa ligne éditoriale, ses contenus, ses positions politiques? Et la réponse est non à 72%. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Est-ce que les annonceurs, finalement, ne regardent que les audiences pour atteindre une masse?
Alors moi, j'étais très surprise par les résultats. Alors c'est peut-être parce que justement dans notre métier on réfléchit beaucoup à ça, où est-ce que doit être présente une marque, qu'est-ce que ça veut dire d'aller sur cette chaîne plutôt qu'une autre, sur ce plateau plutôt qu'un autre. Et donc j'ai été étonnée par les résultats, parce que c'est vrai que ce qu'on regarde en premier quand on fait de l'achat d'espace, c'est les cibles, les catégories de population, leur âge, est-ce qu'ils vont être ou pas sensibles à mon produit. Mais de plus en plus, et d'autant plus qu'on va de plus en plus vers des médias d'opinion, de plus en plus ça devient quand même stratégique de se dire si oui ou non on doit être présent sur une chaîne ou pas. Juste un exemple, Décathlon en 2021, qui a retiré toutes ses annonces publicitaires de la chaîne CNews, justement parce que il y avait à l'époque Éric Zemmour, etc., qui faisait énormément de chroniques et qui était très remis en cause. Donc, il y a d'ailleurs un collectif qui s'appelle Sleeping Giants, qui fait un peu la loi là-dessus et qui s'attaque très profondément à ce que des discours haineux ne soient pas, entre guillemets, financés par certaines marques.
Oui, c'est un mouvement effectivement qui a été monté en 2016, je crois, après l'élection de Trump, et qui fait la chasse justement au financement du discours haineux. Et il y a une antenne de France qui est assez puissante, et qui est une mécanique assez simple, qui est de s'appuyer sur une loi, la loi Avia de 2020, où il y a un amendement, justement, Sleeping Giant, pour surveiller les médias dans lesquels communiquent sur Internet, donc par la publicité programmatique, surveillent leurs déclarations, et surveillent les bons et les mauvais élèves avec une pratique de name and shame ou name and praise. Et effectivement, ils ont de plus en plus de pouvoir.
Et alors, est-ce que ce serait pertinent pour les marques de pour le coup, prendre position sur leurs opinions et de communiquer à travers des médias, tribunes?
On voit que ça a créé en fait des réactions et une polarité opposée. C'est-à-dire que les médias visés, il y a C8, il y a CNews, il y a Boulevard Voltaire, il y a le JDD, donc tous les médias considérés comme politisés. Et ça a créé des mouvements en fait d'opposition, de contre-feu. On pense au mouvement Corsaire, justement, qui entendait doxer, donc rendre public l'identité des membres de Sleeping Giant. Et donc, ça crée une polarité très, très, très politique à un moment où les marques, elles, et les entreprises, les marques sont jugées, sont préférées pour les valeurs qu'elles émettent, mais en même temps, les lieux où elles communiquent, eux, sont jugés et décriés. Donc, elles se retrouvent un peu dans un piège entre de la polarisation sur le sujet des valeurs, et parfois sur des valeurs identitaires, et le sujet de la politisation des médias.
Je pense quand même que les marques ont intérêt à rester vraiment en dehors du jeu politique. Et je pense qu'elles n'ont pas intérêt à s'engager pour une personnalité, pour un parti, pour un autre, en tout cas publiquement. Mais par contre, je pense qu'elles ont plutôt intérêt à éviter les émissions trop polémiques ou les placements qui sont beaucoup trop, qui diffusent trop ouvertement des valeurs auxquelles elles pourraient adhérer.
Même s'il y a de l'audience, même si.
Ouais, moi je pense que là, on arrive quand même à un moment où on est tous des décrypteurs, on décrypte tous les messages qu'il y a dans les médias, et je crois que même s'il y a énormément d'audience, il y a des audiences qui est dangereux pour une marque de financer.
Je suis d'accord.
Et d'ailleurs, c'était le cas chez Hanouna un peu plus tôt, quand il y a eu tout un, il y a eu toute une suspicion de blagues homophobes, etc. À ce moment-là, il a été privé d'espace publicitaire par l'ARCOM pendant quelques semaines. C'était aussi le message que l'ARCOM voulait indirectement faire passer.
Ou en tout cas, on va continuer à suivre cette commission d'enquête ensemble, et puis les répercussions, les premières conclusions, et puis on continuera aussi à suivre la communication de Quentin Bataillon. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, Victor Bourri et Marie-Virginie Klein. Et puis voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On rendez-vous la semaine prochaine et partout, en replay, télé, podcast et sur l'application de BFM Business. C'est celle-là qu'il faut télécharger. Et puis, comme d'habitude, on termine l'émission avec notre campagne Chouchou, la campagne qu'on a sélectionnée avec CB News. Et cette semaine, c'est Total Energy dans le prolongement de ces campagnes C'est pas à Versailles ici. Total Energy souhaite continuer de faire connaître ses offres d'électricité à travers un nouveau film. L'appli des fans d'économie d'énergie, c'est un père totalement accro à son smartphone. Et c'est une campagne signée Artefact 3000. Très bon week-end sur BFM Business.
Ah ouais, j'ai faim. Papa, à table.
Ouf, c'est bien ça, je suis chaud moi. Ah ouais, de ouf.
Papa.
Ouais, je suis en train de descendre.
Ando, hein. Piscine.
Ciné.
Piscine.
Papa.
Qu'est-ce qu'on a dit sur le téléphone à table?
Non mais attends, là c'est parce qu'on les a éclatés là.
Montre.
Regarde, t'as vu, on consomme vachement moins que les autres.
On les a éclatés, on est des malades.
Énorme.
Zoé, l'encourage pas s'il te plaît.
Mais c'est bon, ça va.
C'est pas bien ça ici.
Hebdo.com sur BFM Business.